Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans le face-à-face avec vous, Olivier Véran, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu répondre à mes questions dans ce studio. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. On va parler de cette rentrée, le coût de la rentrée notamment, les questions de l'inflation, du coût de la vie. On va revenir aussi sur ce suspense que vous allez peut-être un petit peu éclairer sur la grande initiative politique qui devrait être prise à partir de mercredi par le président de la République. Mais je voudrais qu'on commence par l'école. Est-ce que vous diriez que l'école va bien ?
L'école française, elle a des atouts indéniables. L'accès à l'école, la réduction des inégalités, le système qui a été mis en place depuis des années, l'école gratuite, obligatoire. Et elle souffre aussi, on le connaît, d'un mal français parfois, le manque d'attractivité pour les enseignants. Nous y travaillons, c'est la première rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a pu le rappeler encore hier soir, où aucun enseignant ne touchera moins de 2000 euros net par mois en début de carrière, et on continue de travailler sur cette attractivité.
C'est aussi
une école qui doit être une école du bien-être pour les petits, qui doivent, dans quelques jours, retrouver le chemin de la classe et qui doivent y aller, non pas avec la boule au ventre, mais avec l'envie d'apprendre dans des bonnes conditions.
Mais si je vous pose cette question, Olivier Véran, parce que je me dis quand même qu'au gouvernement et à l'Élysée, vous deviez vous dire que l'école allait franchement super bien pour pouvoir tâtonner et zigzaguer à ce point. Il y a 6 mois, on avait un ministre de l'Éducation qui disait quasiment le contraire de ce que le ministre de l'Éducation a dit hier. On avait le temps de tester des trucs, comme ça, de tenter des choses, de tenter un ministre, un autre, qui ont des positions si différentes.
Je ne partage pas du tout votre regard sur les 6 ans. C'est dommage, si c'est ce que vous gardez de ces 6 ans.
Je parle des derniers mois. Un ministre et un autre qui n'ont l'air d'accord sur rien.
Depuis le début du premier quinquennat, le président de la République, Emmanuel Macron, dit l'école... C'est notre priorité, parce que c'est là que tout se construit. On acquiert les fondamentaux, les connaissances. C'est là qu'on apprend à se développer, à être soi-même, le futur adulte qu'on sera, et à préparer l'entrée dans la vie.
Qu'est-ce que nous faisons ? Évidemment, l'école, on est tous d'accord pour dire que c'est très important pour tout le monde.
Il faut que je puisse faire une phrase complète pour pouvoir répondre à la question que vous m'avez posée, qui n'est pas vraiment une question.
Vous répondez pas à ma question.
Vous posez une critique. Laissez-moi y répondre. Nous avons une boussole, faire en sorte que les enfants aient bien. Faire en sorte que lorsque les parents déposent les enfants à l'école le matin, ils le fassent en confiance. Et faire en sorte que pour que tout ça se déroule dans de bonnes conditions, on ait des enseignants bien formés qui soient heureux dans leur métier. C'est ce que nous faisons depuis 6 ans. On travaille sur l'attractivité, on travaille sur l'acquisition du socle. Dès Jean-Michel Blanquer d'ailleurs, le socle en mathématiques, en français, vous le savez, a été renforcé. On a augmenté les horaires de savoirs fondamentaux. On a aussi, c'est la boussole du président, la réduction des inégalités. Dès le début du premier quinquennat, nous avons dédoublé les enseignants, les classes pour dans les endroits les plus difficiles. Et nous continuons, regardez, on est dans une continuité d'action. Quand nous annonçons que la rentrée scolaire sera anticipée pour les élèves en difficulté,
peut-être dès le 20 août,
quand nous annonçons que l'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans et pas à l'âge de 6 ans, lorsque nous annonçons que désormais les enfants pourront rentrer de plus en plus à l'école dès l'âge de 2 ans lorsqu'ils en auront besoin.
Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous nous exposez, mais il y a aussi beaucoup de points que vous essayez d'oublier. Moi, je vais vous reprendre des exemples très concrets, puisque à ce même micro, je recevais Pap Ndiaye il y a 6 mois, en janvier dernier. Sur les questions de l'uniforme, par exemple, il me répondait qu'il n'en était pas question, que ce n'était absolument pas dans ses idées, qu'il n'y était pas favorable. Gabriel Attal, son successeur, y est favorable. Et en même temps, l'abaya, il y a 6 mois, il me répondait, c'est pas notre problème, c'est impossible, je suis pas là pour calculer la taille de la jupe. Et hier soir, Gabriel Attal nous dit la baya, c'est fini, c'est interdit.
Je vous réponds sur ces deux points.
Est-ce qu'on pouvait comme ça tâtonner ?
Je vous réponds sur deux points, vous allez voir qu'on ne tâtonne pas. D'abord sur la question de l'uniforme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an ? Il y a eu le Conseil national de la refondation, à la demande du président. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans des milliers d'écoles, la communauté éducative, les parents, les enseignants, les élèves, se sont réunis. Et dans un certain nombre d'établissements, il s'est avéré que des écoles voulaient expérimenter l'uniforme. Ce que dit le ministre de l'Éducation, c'est expérimentons l'uniforme dans les écoles qui sont volontaires pour le faire. Donc on est aussi capable d'évoluer en tenant compte des demandes du terrain.
Sur la question de l'abaya,
je vais vous répondre quand même sur les questions que vous posez.
Vous
posez des questions qui sont multiples, je vous fais au moins une réponse. Sur la question de l'abaya, nous avons toujours été très clairs. L'école, c'est le lieu, c'est un temple de la laïcité. On ne vient pas à l'école pour faire du prosélytisme religieux, on vient pour apprendre. Et quand on est en classe, on n'a pas à être exposé à des signes ostentatoires. La définition de l'abaya, vous la connaissez, il existe une circulaire. Ce que le ministre Gabriel Attal constate, ce que lui ont dit des enseignants, des proviseurs, des directeurs d'établissement, c'est qu'il est parfois difficile de faire respecter cette règle et que les principaux d'établissements, les proviseurs, ont besoin d'un appui plus fort de la part de leur ministre, de la part de l'État et des académies pour faire en sorte que cette règle soit respectée. Ce sera donc le cas. Mais nous avons toujours été très clairs
sur le fait que
la laïcité est une règle qui s'impose à l'école et heureusement.
Celle défendue par Gabriel Attal aujourd'hui.
Je vous dis qu'il y a dans la méthode, peut-être dans la présentation, dans l'écoute qui a été portée à la communauté éducative ces dernières semaines, qu'il est apparu qu'il y avait la nécessité de renforcer un certain nombre d'axes.
Vous estimez, vous, que la trajectoire est lisible.
Prenez le pacte enseignant, par exemple. Le pacte enseignant, ça a été mis en place, proposé depuis quelques mois. C'est la première année où ça se met en place. Mais quand on voit à la mise en place que parfois ça peut patiner, parfois ça peut être mal compris, eh bien, il faut être capable de se réinterroger et de réorienter ce que fait le ministre.
Alors concrètement, sur la baïa d'abord, sur les rythmes scolaires ensuite, concrètement, on ne pourra donc plus porter la baïa, voilà ce qu'a dit Gabriel Attal hier. Est-ce que ça veut dire que c'est purement et simplement interdit, que si un élève, une élève se présente aux portes d'un établissement lundi matin avec une abaïa, cet élève ne pourra pas rentrer dans l'école comme ça?
Et c'est bien le principe, et pardonnez-moi, on est en train de rappeler là une règle élémentaire. L'école, c'est laïque. C'est laïque. De la même manière qu'il y a d'autres lieux, il y a des services publics ou même des adultes ne peuvent pas venir avec des signes religieux ostentatoires. L'hospitalier, le médecin hospitalier que je suis, peut vous le dire. Et quand il y avait des infirmières qui venaient à l'hôpital, quelle que soit leur religion, elles savaient qu'elles n'y venaient pas avec des signes religieux ostentatoires. Ce que le ministre
conseil, va... Vous avez vu que le Conseil français du culte musulman dit que la baïa n'est pas un vêtement religieux et ils ont l'impression que ça va stigmatiser les musulmans.
Alors, je ne parle pas là du Conseil français, mais je vois qu'à l'extrême gauche de l'échiquier et politique, et des gens qui nous attaquent d'islamophobie tout en expliquant que la baïa n'est pas un vêtement religieux. Donc il faudrait savoir si oui ou non c'est religieux. Évidemment que ça l'est, et je vais même plus loin, c'est une attaque politique. C'est un signe politique. Quand vous venez avec des appels sur les réseaux sociaux à venir avec des habits religieux ostentatoires dans un établissement scolaire laïque, vous faites de la politique, vous faites du prosélytisme. Et on le dit de manière très calme, mais aussi très ferme, ce n'est pas le lieu pour ça.
Sur la question du rythme, vous le confirmez, ce sera donc fini pour les épreuves en mars. Est-ce que, de ce point de vue-là, tout est prêt? Est-ce que cette semaine, vous allez encore affiner avec le gouvernement l'application de tout cela ou est-ce que tout était prêt avant l'annonce d'hier?
Je crois que dans 20 minutes, le ministre en charge de l'Éducation nationale va donner une conférence de presse au ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir justement expliquer toutes les évolutions de la rentrée. Si vous m'autorisez, je vais attendre qu'il le fasse.
Il y a
lui-même.
La question de l'inflation. Il a d'ailleurs commencé à l'évoquer hier en disant qu'il allait réfléchir à une manière d'aider davantage les familles, notamment les familles qui travaillent mais qui restent modestes et qui ne touchent pas les aides. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas un kit gratuit pour tout le monde? Il y a des villes qui le font, hein, c'est le cas de Marseille, qui donnent carrément les fournitures scolaires aux élèves.
Mais d'abord, rien n'empêche les communes, et heureusement, de prendre des initiatives. On va dans ce sens-là d'ailleurs.
Enfin, les communes, elles aimeraient avoir plus de sous, elles ne peuvent pas toujours le faire.
Mais attendez. Une fois, le président, il a la volonté que les collectivités puissent innover, qu'elles puissent développer des choses pour les habitants, tant mieux. Et ensuite, le ministre a, là aussi, hier, expliqué, annoncé qu'il souhaitait travailler pour qu'il puisse y avoir... Vous savez, moi, je suis père de famille. J'ai deux enfants, j'ai une petite fille qui va rentrer en CM2 et un garçon qui va rentrer en quatrième. Donc c'est la période, parce que je fais plutôt partie des retardataires, où on va faire les courses dans les supermarchés avec une liste énorme, et j'en veux pas du tout aux enseignants, c'est normal, ils ont besoin d'avoir du matériel, mais là vous allez vous battre pour le cahier à spirale à petit carreau de 230 pages, et vous allez voir que parfois, selon l'endroit où vous faites vos courses, même si la grande distribution fait des efforts pour que ce soit accessible, parfois c'est galère. Donc,
oui, on peut aussi se dire. Pas gratuite
pour tous. Et à la fin des fins, vous avez un poids du cartable qui est absolument énorme pour les petits. Et quand vous les amenez à la rentrée, vous dites comment on va faire pour
s'en sortir. Donc,
on peut travailler sur ces questions-là pour faire en sorte que ce soit peut-être plus simple, que ce soit peut-être davantage harmonisé, du coup que ça coûte moins cher pour les familles.
Il y a un décalage entre le prix des fournitures scolaires qui a augmenté de 11% cette rentrée et l'allocation de rentrée qui n'a augmenté que de 5%. Donc forcément, on voit le delta.
Ah mais je vous le dis, quand vous avez fait les courses pour les fournitures scolaires, il faut parfois y passer du temps, y passer de l'énergie pour arriver à trouver dans tel endroit un produit qui va coûter un peu moins cher qu'ailleurs. Et plus c'est spécifique, plus c'est précis, plus ça peut coûter cher. Donc tout ça, il faut qu'on puisse travailler.
Oui, mais là vous êtes dans le constat, qu'est-ce qu'on fait?
Et d'abord, on a augmenté, vous l'avez dit, l'allocation de rentrée scolaire qui ne sert pas qu'à payer les fournitures en soi et qui va aussi permettre de couvrir des dépenses courantes de la rentrée. Vous pouvez aussi constater qu'on a fait cet effort, la nation fait cet effort pour des millions d'élèves qui en avaient besoin.
Pas de hausse d'impôts?
Pas de hausse d'impôts, depuis 6 ans, on les baisse. Ça, je vais vous dire, au bout de 6 ans, les Français, ils le voient, ils le constatent. Et d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, c'est quelque chose qui nous est accordé. On baisse les impôts pour les Français et pour les entreprises. Et dans le même temps, on maîtrise la dette et les déficits.
Et pour les entreprises?
Ben c'est ce que nous faisons depuis 6 ans.
Parce qu'il a l'air inquiet, hein, le nouveau patron du MEDEF, il le dit d'ailleurs dans le Figaro ce matin, c'est l'université du MEDEF qui commence aujourd'hui, il dit que les patrons sont inquiets, qu'ils n'ont pas de visibilité, qu'ils redoutent des hausses d'impôts. Vous nous dites ce matin, ils n'ont rien à redouter, il n'y en aura pas ?
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a eu l'occasion de le dire lui-même, nous avons une trajectoire pour supprimer un impôt de production, alors que les Français, à mon avis, ne sont pas très nombreux à connaître, sauf quand ils le pratiquent, qui est la CVAE, que nous sommes engagés à supprimer d'ici 2027, qui est un impôt qui pèse en fait sur les salaires dans la production dans les usines et qui peut parfois gêner à l'embauche. Cette politique que nous menons de réduire les impôts pour les entreprises, elle nous a permis de créer 2 millions d'emplois, elle nous a permis d'en finir avec le chômage de masse, elle nous permet d'être le pays le plus attractif d'Europe pour créer de l'emploi et des usines. C'est la volonté du président de la République, c'est pour qu'on puisse retrouver cette souveraineté pour produire nous-mêmes et pas être dépendant du bout du monde quand on a besoin de choses immédiatement
chez
nous.
Et les cigarettes, la hausse des prix des cigarettes, le paquet qui pourrait passer à 12 euros, c'est en réflexion ?
Ça, ce sont des arbitrages budgétaires qui seront présentés par les ministres concernés dans quelques semaines. C'est chaque année le même exercice quand on présente le budget et le budget de la sécurité sociale. Retenez néanmoins une chose, c'est qu'on va mettre plus d'argent pour l'hôpital que l'année précédente, plus d'argent pour la santé des Français que l'année précédente. Et donc, comme chaque année, il nous faut faire des choix. Si on veut mieux soigner les gens, il faut aussi qu'on soit capable de maîtriser les dépenses de sécurité sociale.
Donc pourquoi pas, ça fait partie des pistes.
Ça fait de toute façon chaque année partie des pistes. Parfois elles sont retenues, parfois elles ne le sont pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui.
12 euros le paquet de cigarettes en réflexion. Et puis, moins de remboursement sur les médicaments. Un reste à charge de 50 centimes pour les boîtes d'un euro. Ça aussi, vous confirmez ?
Ça fait partie, encore une fois, des pistes de réflexion. Je ne peux pas vous le confirmer parce que je n'ai pas la réponse à Pauline de Malherbe, encore une fois.
Ça n'est pas arbitré, mais c'est sur la table.
Comme chaque année. Moi, je suis occupé de ça au Parlement pendant des années. Comme quand j'étais rapporteur général du budget de la Sécu et quand j'étais ministre, évidemment. Donc, c'est la période où on fait les arbitrages, les ajustements pour faire en sorte qu'on puisse à la fois dépenser plus pour la santé et à la fois ne pas plomber les finances de la sécurité sociale.
Olivier Véran, mercredi, Emmanuel Macron va recevoir les différentes forces politiques. Tadam, ça devrait être une initiative, je cite, initiative politique d'ampleur. C'est quoi ?
C'est une innovation. C'est de la démocratie. Et c'est quelque chose qui va porter des fruits. Moi, je suis convaincu de ça. C'est la première fois qu'un président de la République réunit ensemble, autour d'une même table, l'ensemble des chefs de parti représentés au Parlement. Ce sera d'ailleurs à l'école de la Légion d'honneur, qui est à Saint-Denis. C'est un double symbole. D'abord, la méritocratie.
Ce sera pas, vous nous annoncez ce matin que ce sera en Seine-Saint-Denis.
Ce sera à Saint-Denis, qui est une ville qui a connu d'ailleurs des émeutes. Dans le contexte que nous connaissons.
Un instant. Vous dites l'école de la Légion d'honneur, c'est une école effectivement de la République, de haut niveau pour les enfants d'officiers.
C'est une école pour des jeunes filles dont les parents ont été récompensés par la nation, par la République, pour des mérites particuliers. Il n'y a pas que des officiers d'ailleurs.
Il y a les
gens qui sont célébrés par la République. Mmh. Exactement. Donc c'est une valeur symbolique et c'est aussi, je le redis, à Saint-Denis. C'est une après-midi de travail qui va avoir lieu, qui est une après-midi que le président de la République souhaite productive. Pourquoi ? D'abord, il y a un contexte international que chacun connaît. La guerre aux portes de l'Europe, une instabilité inédite en Afrique, les grands axes, les grandes puissances, la Chine, les États-Unis, qui créent beaucoup d'instabilité jusqu'en Europe et en France. C'est un moment particulier qui nous oblige. Le président, il souhaite que nous puissions travailler sur plusieurs axes. D'abord, l'axe international, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi sur comment faire nation, sur le retour de l'autorité, sur les questions d'immigration. Et il propose aux chefs de parti de venir avec des idées, des propositions qui leur sont propres. Rien n'est trié, rien n'est prédéterminé.
C'est un peu le grand débat, mais avec les politiques.
C'est plus qu'un grand débat, dans la mesure, enfin en tout cas c'est différent d'un grand débat, dans la mesure où ce que nous voulons, c'est que ça puisse aboutir à des propositions de loi, voire
ce qui n'avait pas été tellement le cas, vous laissez entendre du grand débat. Il y avait quand même un peu la
Non, c'est pas vrai. C'est que nous demandions aux citoyens dans le grand débat de faire des propositions ou de nous dire ce qui n'allait pas dans leur vie. Là, le président s'adresse à des chefs de parti, donc il peut aussi leur demander de proposer déjà des choses qui puissent être traduites concrètement dans la loi ou par des référendums.
Mais quand vous dites initiative politique d'ampleur, ça reste assez mystérieux quand même sur le fond. Est-ce que c'est mystérieux parce que vous voulez jouer le suspense ou est-ce que c'est mystérieux parce qu'en fait, il n'y a rien dans le chapeau ?
Non. Pauline de Malherbe, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, des innovations en matière, et c'est le ministre de la démocratie qui vous le dit, des innovations en matière de démocratie, il y en a eu. Et parfois, elles ont été d'ailleurs raillées par anticipation. La convention citoyenne, il n'empêche qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de plastique à usage unique, si bientôt on ne vendra plus de véhicules thermiques, s'il y a des zones à faible émission, dont on parle souvent d'ailleurs sur votre antenne, c'est parce qu'il y a une convention sur le climat. La loi sur la fin de vie qui va intervenir, c'est parce qu'il y a eu une convention citoyenne. Donc la méthode, elle a fonctionné. Ensuite, il y a eu les conseils nationaux de la refondation, qui a permis, je le redis, à des milliers d'écoles de faire des propositions, qui a permis aussi à des collectivités dans le domaine de la santé de proposer des réorganisations. Et donc, qui permet de faire travailler les gens ensemble et aux Français de se sentir pleinement
utiles.
Ils vont
venir avec leurs propositions.
Maintenant, vous avez une autre innovation démocratique.
Qu'est-ce qui va en sortir ?
Pour la première fois, de proposer aux chefs de parti de mettre de côté peut-être un certain nombre de divisions de formes. Ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais ils ont des idées, des propositions à nous faire. Et le président leur dit, venez avec, on va en faire quelque chose pour les Français.
Et on va en faire quoi ? Un référendum ?
Eh bien, il le dit lui-même, le président. Il est ouvert à faire un référendum, et pourquoi pas même un préférendum. Alors, pour les Français qui vous regardent,
c'est
qui
disent que c'est ce truc.
Un préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même vote. Par exemple, vous pouvez poser des questions multiples aux Français. Je ne dis pas que c'est ce qui est sur la table, mais je dis que
le même jour, ce serait pas plusieurs référendums les uns après les autres, ce serait peut-être un référendum dans lequel il y ait plusieurs cases à cocher.
Vous connaissez le reproche qu'on fait souvent à un référendum, c'est qu'on dit que les Français vont voter pour ou contre celui qui pose la question. Peut-être qu'en posant plusieurs questions, les gens vont peut-être se lâcher sur un item et pouvoir répondre aussi sur le fond, sur l'ensemble des autres questions. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle d'innovation...
Quelle forme, si j'essaie de comprendre, c'est quoi ? C'est des papiers avec plusieurs questions, il faut cocher, il faut...
Quand on parle d'innovation, et quand je vous dis que les choses ne sont pas écrites par avance, c'est que justement, c'est ce qu'il faut discuter avec les chefs de parti. Et quand je vous parle d'innovation démocratique, et quand le président annonce une initiative d'ampleur, c'est que c'est bien l'innovation d'ampleur.
Un référendum, mais qui pourrait avoir plusieurs sujets. Parmi les sujets de réflexion, vous avez lancé des grands chapitres, la cohésion de la nation, la solidité de nos familles, la place de l'école, l'efficacité de l'action publique.
L'immigration.
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir, par exemple, une première question sur l'école, une deuxième question sur l'immigration, une troisième question sur l'écologie? C'est ça, un référendum?
À ce stade de l'interview, je ne voudrais pas donner le sentiment de faire une annonce sur quelque chose qui pourrait être un objet, mais qui pourrait ne pas l'être.
Quand je vous dis que les choses sont sur la table,
c'est que ça fait partie des possibilités sur la forme pour faire adopter un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est du tout l'option qui est retenue aujourd'hui. Voilà. Donc, les choses sont ouvertes et c'est tout l'intérêt de la réunion.
Mais c'est une forme de démocratie directe, on est d'accord?
C'est une forme de démocratie directe. Tout simplement, les Français, ils ont envie de voter. Ils aiment bien voter. Et d'ailleurs, moins ils participent aux scrutins électoraux classiques, moins ils appartiennent à des partis, plus ils estiment que pour se sentir utiles, ils ont envie de participer à des votes directs sur des sujets directs.
Et ce référendum, il va avoir lieu quand?
Non mais attendez, vous allez trop loin. Il n'y a pas de préférendum qui soit acté. Je vous dis, ça fait partie des possibilités.
Et on se donne quoi? Un an? 6 mois?
Mais on verra. Encore une fois, il y a une réunion mercredi, il y aura ensuite un relevé de conclusion, les choses ne sont pas
définies. Donc c'est mercredi que ça sort du chapeau.
Il y aura peut-être un référendum, il y aura peut-être plusieurs référendums, peut-être qu'il n'y en aura pas si on ne trouve pas de sujet sur lesquels interroger les Français.
En tout cas, c'est mercredi, effectivement. Olivier Véran, vous étiez où hier? Vous n'étiez pas à Tourcoing?
Non, je n'étais pas à Tourcoing.
Vous n'étiez pas invité?
Je n'étais pas à Tourcoing, mais la Première Ministre y était, et j'ai vu des visages de la majorité qui étaient réunis pour défendre un bilan, celui du Président de la République, et de l'ensemble des membres du gouvernement depuis 6 ans.
Et vous n'avez pas répondu, vous étiez invité,
pas... Pardonnez-moi, on ne parle pas de la boum de troisième, c'est une réunion politique, comme il y en a d'autres.
Demande, il y avait 11 non. ministres, il n'y avait pas mais vous.
Pardon, je crois que les Français qui nous regardent ce matin n'ont rien à faire de savoir qui était à Tourcoing ou pas, qui était invité ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est de savoir en quoi l'action que nous menons, les réflexions que nous menons, et en quoi notre énergie et notre temps, nous le passons à faire en sorte que leur rentrée se passe bien, pour leur pouvoir d'achat, pour la sécurité, etc.
Vous dites, c'est pas une boum de troisième, mais un peu quand même, non? Justement, il y a un peu ceux qui y vont, ceux qui n'y vont pas.
Vous avez un discours d'élus territoriaux, de ministres, vous avez un discours de la Première Ministre. Ça a permis, encore une fois, de montrer un visage uni de la majorité pour défendre le bilan du président.
Il avait raison de faire sa rentrée politique.
Je n'ai pas en jugé.
Gérald Darmanin.
Je n'ai pas en jugé. Je vous dis, pour moi, la rentrée, excusez-moi, mais là où je veux passer de l'énergie, c'est sur ce qui va se passer mercredi. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de très nouveau et qui va avoir des conséquences positives pour le quotidien des Français.
Est-ce que vous considérez que les questions de sécurité, ça va, ça se passe bien, on peut passer comme ça une journée à parler d'autre chose que des questions de sécurité quand on est ministre de l'Intérieur?
Et dans le même mouvement, le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'à Nîmes, là où il y a eu des drames en lien avec le trafic de drogue, eh bien, il y avait la CRS-8, il y avait le RAID qui était déployé pour continuer de restaurer la sécurité.
Est-ce que c'est réglé, l'histoire de Nîmes, pour vous?
L'histoire de Nîmes, vous savez, c'est l'histoire,
ça
hélas...
Ça fait une semaine, hein, qu'il y a l'histoire, c'est l'histoire des... tous les deux jours, non seulement
mais Nîmes,
des
c'est l'histoire d'un trafic qui gangrène un quartier. C'est l'histoire de l'insécurité qui est vécue et qui est subie avant tout par les familles qui habitent dans ces quartiers. C'est des gens qui n'osent pas sortir de chez eux parfois parce qu'ils ont peur de prendre une balle perdue. Et c'est l'histoire d'un pays qui constate que dans certaines zones de la République, eh bien, l'ordre est très dur à maintenir. C'est l'histoire de la lutte contre tous ces trafics. C'est aussi l'histoire de la lutte contre les assignations à résidence. C'est l'histoire de la lutte contre l'urbanisme lorsqu'il n'est pas adapté aux populations nombreuses. Et c'est l'histoire aussi parfois d'une immigration qui est mal organisée. Donc c'est tout cela que nous menons de front, que nous faisons bloc encore une fois pour restaurer l'ordre. On l'a vu suite aux émeutes avec efficacité, dans l'urgence, mais aussi dans la durée, et aussi en se posant les bonnes questions.
Gérald Darmanin réussit son bilan sur la sécurité pour vous ?
Je n'ai pas jugé du bilan de Gérald Darmanin,
je dis juste que
personne ne peut lui retirer cette détermination qui est la sienne à faire en sorte que les Français vivent.
On n'aurait toujours pas compris si vous aviez été invité ou pas, s'il y a un SMS ou pas.
Parce que je vous dis que ce n'est pas un sujet pour moi, je crois que ce n'en est pas un pour les Français.
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, merci d'être venu répondre à mes questions ce matin.